Merci d'écouter RFI, il est 22h ici à Paris, 20h temps universel.
Mathis Limano.
La fête des travailleurs célébrée à travers le monde ce jeudi 1er mai de Paris à Tunis en passant par Cuba. Mais c'est en Turquie qu'on est en début de journal. Des marches sous haute tension alors que la détention d'Ekrem İmamoğlu cristallise les tensions politiques. À Istanbul, la ville de l'opposant à Recep Tayyip Erdogan, plus de 400 personnes ont été arrêtées. Aux États-Unis, premier remaniement majeur dans l'administration Trump, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz est poussé vers la sortie. Il hérite tout de même du poste d'ambassadeur aux Nations Unies. Et puis l'inquiétude de la minorité druze de Syrie. Des affrontements avec des groupes proches du pouvoir islamiste ont tué plus de 100 personnes en 48 heures. S'opposant en protecteur des druzes, Israël mène des frappes et promet de les intensifier. Les célébrations du 1er mai, fête des travailleurs, nous emmènent en Turquie, contexte très tendu cette année. L'arrestation puis la détention du maire d'Istanbul mi-mars a plongé le pays dans une crise politique qui s'ajoute à des années de crise économique marquée par l'inflation et un pouvoir d'achat des salariés en berne. À Istanbul, la plupart des syndicats et partis politiques s'étaient donné rendez-vous sur la rive asiatique, mais d'autres ont tenté de marcher vers la célèbre place Taksim, interdite au rassemblement. Selon une association d'avocats, plus de 400 personnes ont été arrêtées. Dans la capitale, Ankara, on défilait aussi entre inquiétude et espoir à Nandloer.
Dans le cortège du 1er mai, les jeunes semblent encore plus nombreux que les années précédentes. Pour Didem, militante du Parti des travailleurs de Turquie, le TİP, c'est la suite logique des manifestations contre l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, le 19 mars.
Ce sont les étudiants qui, depuis le 19 mars, portent le mouvement de contestation. En ce 1er mai, étudiants et travailleurs unissent leur lutte. Et il faut qu'il en soit ainsi. Nous sommes tous des citoyens. Et ce sont nos droits de citoyens qu'on essaye de nous enlever.
Okan, 21 ans, est un membre du CHP, le parti du maire d'Istanbul. Crise de la démocratie, crise de l'économie, à ses yeux, tout est lié.
Depuis l'arrestation d'İmamoğlu, la banque centrale a dû puiser massivement dans ses réserves pour soutenir la monnaie. Ça veut dire que dans quelques mois, la situation économique aura encore empiré, les travailleurs souffriront encore plus.
Fatin Kanat est co-dirigeant à Ankara du parti pro-kurde, le DEM. Pour lui, ce 1er mai est plutôt synonyme d'espoir. Celui d'une possible paix entre la Turquie et le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, qui devrait annoncer bientôt la fin de la lutte armée.
Avancer dans la résolution de la question kurde, c'est aller vers plus de démocratie, plus de liberté, vers la fin des politiques répressives du pouvoir. C'est un espoir de paix pour tout le Moyen-Orient.
Les autorités turques s'attendent à ce que le groupe armé kurde annonce sa dissolution dans les prochains jours ou semaines. Anandloer Ankara, RFI.
Aussitôt remercié, déjà replacé, Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, poussé vers la sortie. Il va toutefois devenir le prochain ambassadeur des États-Unis à l'ONU. En attendant, c'est Marco Rubio, l'actuel chef de la diplomatie, qui va assurer l'intérim à la sécurité nationale. Mike Waltz était dans la tourmente depuis le Signal Gate, cette affaire de partage d'informations militaires à un journaliste. Ce remaniement est le premier depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et alors que Washington et Kiev ont enfin scellé un accord sur l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes, les Européens annoncent préparer de nouvelles sanctions contre la Russie. Vladimir Poutine est le seul obstacle à la paix, a estimé le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot. La quatrième session des pourparlers sur le nucléaire iranien reportée pour raisons logistiques, annonce du sultanat d'Oman qui fait office de médiateur entre Américains et Iraniens. Pas plus de détails sur ces raisons logistiques. Les États-Unis ont annoncé qu'ils s'attendaient à de nouvelles discussions avec l'Iran dans un futur proche. RFI 23h04 à Damas. Le bilan des violences confessionnelles ne cesse de s'alourdir en Syrie. D'après une ONG, plus de 100 personnes sont mortes en deux jours dans des affrontements entre la minorité druze et des groupes sunnites proches du pouvoir central. Tout a commencé lundi soir après un message audio insultant le prophète. Message attribué à un responsable druze et qui s'avère finalement être un faux. En réaction, des milices islamistes radicales ont déferlé sur les communautés druzes en périphérie de Damas. Mais pour le moment, Alice Froussard, les reproches de la minorité druze se dirigent surtout vers le gouvernement syrien.
Les mots du cheikh Hikmat Al-Hijri sont forts. Pour le chef spirituel de la minorité druze de Syrie, il s'agit, je cite, d'une campagne génocidaire contre sa communauté, visant des civils à leur domicile. « Nous ne faisons plus confiance à une entité qui prétend être un gouvernement », martèle-t-il, « car un gouvernement doit protéger son peuple ». Il faut dire que cette dernière vague de violence, qui a commencé lundi soir en banlieue de Damas, a surtout réveillé le spectre d'un déchirement de la Syrie selon des lignes communautaires et montre que le chemin sera encore long avant d'unifier le pays. D'un côté, il y a donc les druzes organisés pour défendre leur quartier, rejoints par d'autres miliciens druzes venus leur prêter main forte. En face, des combattants sunnites, anciennement membres de Hayat Tahrir al-Sham, le mouvement islamiste d'Ahmed al-Shara. Mais sont-ils des membres des nouvelles forces de sécurité syriennes? Appartiennent-ils à des groupes radicaux qui évoluent en marge des structures officielles? Ou bien sont-ils rattachés au pouvoir de Damas en échappant à son contrôle? Rien n'est clair pour le moment et ces questionnements sont les mêmes qu'après les tueries de début mars contre les Alaouites, la minorité dont est issu Bachar al-Assad, qui en quelques jours avait fait 1700 morts.
Accusé d'instrumentaliser l'hostilité des druzes envers le gouvernement, Israël mène des frappes en Syrie et promet de répondre avec force si le gouvernement syrien ne protège pas plus la minorité druze. L'État hébreu où les incendies sont sous contrôle. Depuis deux jours, les environs de Jérusalem étaient en proie à d'importants feux de forêt. Attisés par les fortes chaleurs et les vents violents, les axes routiers fermés la veille ont pu rouvrir. La piste criminelle est avancée par le gouvernement israélien. Les autorités ont procédé à 18 arrestations. Israël qui poursuit ses frappes dans la bande de Gaza. La défense civile fait état d'au moins 29 morts depuis la nuit dernière. Ce vendredi, cela fera deux mois que l'aide humanitaire est bloquée par Israël. Jusqu'où ira l'escalade entre l'Inde et le Pakistan? Après de nouveaux échanges de tirs à la frontière, la crainte s'accentue quant à une guerre ouverte entre ces deux puissances nucléaires. Point de départ des tensions, l'attentat la semaine dernière au Cachemire indien, attentat imputé au Pakistan qui a tué 26 civils. Et alors qu'Islamabad anticipe sous peu des frappes indiennes, la population du Cachemire se prépare au pire, Yelena Tomic.
Deux jours après que le premier ministre indien Narendra Modi ait donné carte blanche à ses forces pour frapper le Pakistan, le Cachemire pakistanais anticipe la riposte. Les autorités locales ont annoncé la fermeture de plus de 1000 écoles coraniques pendant 10 jours. Aux abords de la ligne de contrôle où des tirs transfrontaliers résonnent depuis maintenant une semaine, la population a commencé à stocker des vivres et à nettoyer les abris de fortune et les bunkers construits lors des conflits précédents. Des exercices d'évacuation et de premiers secours sont organisés dans les écoles pour se tenir prêts à intervenir en cas d'urgence. Malgré les appels à la retenue, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exhorté les deux parties à désamorcer la crise et à éviter l'escalade. Les tensions persistent. Le ministère indien de la Défense a accusé l'armée pakistanaise d'avoir violé pour la 7e fois consécutive le cessez-le-feu le long de la ligne de contrôle.
Yelena Tomic, service international de RFI. Au Royaume-Uni, toutes les nouvelles maisons construites devront être équipées de panneaux solaires, annonce du gouvernement. Le gouvernement de Keir Starmer ce jeudi, entrée en vigueur du dispositif en 2027 avec un objectif, poursuivre la décarbonation du réseau électrique du pays. Une stratégie qui soulève néanmoins de plus en plus de critiques malgré l'avancement du programme et les premiers bons résultats engrangés, Simon Rosé.
Le Royaume-Uni s'est fixé un objectif, son réseau électrique doit être neutre en carbone en 2030. Cinq ans avant l'échéance, la trajectoire est bonne, le pays a fermé sa dernière centrale à charbon et deux tiers de sa production d'électricité n'émet pas de gaz à effet de serre, elle est assurée par du nucléaire ou des énergies renouvelables. Reste donc un dernier tiers, le gaz naturel, et pour s'en affranchir, le gouvernement travailliste annonce l'obligation d'installer des panneaux solaires sur la quasi-totalité des maisons neuves construites à partir de 2027. 1 500 000 devraient sortir de terre d'ici la fin de la législature. Cette décision intervient à un moment où la politique climatique de l'exécutif est vertement critiquée. Tony Blair, pourtant du même bord, a eu des mots très durs ces derniers jours, dénonçant une politique irrationnelle de neutralité carbone politique vouée à l'échec, selon l'ancien Premier ministre. En cause, estime-t-il, les sacrifices financiers exigés aux ménages britanniques. De fait, l'installation des panneaux solaires entraînera un surcoût de l'ordre de 4000 euros par maison, mais c'est un investissement qui sera vite rentabilisé, estime le gouvernement, puisque les factures énergétiques des ménages devraient diminuer d'un quart.
Après la Ligue des Champions, place à la deuxième division européenne ce soir, la Ligue Europa. Manchester United se déplace chez les Basques de l'Athletic Bilbao. Les Mancuniens mènent 3-0. Tottenham reçoit la surprise de ces demi-finales. Les Norvégiens de Bodø scorent 2-0 pour les Spurs. La mi-temps terminée, les deux rencontres viennent de reprendre. Merci d'écouter RFI, il est 22h10 à Paris.